toute l'équipe, c'est Marianne de Cadenom en Moselle. Dans le monde d'avant, vous étiez la tête au carré. On prenait l'avion pour partir un week-end au soleil. On achetait des vêtements et des kiwis qui venaient du bout du monde. Et on avalait des kilomètres d'autoroute avec des gros SUV. Maintenant, c'est le monde d'après. Vous vous appelez la Terre au carré. Mais Camille a perdu sa chronique de 7h20. On annonce avec inquiétude les déficits de pluie pour l'agriculture. Mais on se réjouit du beau temps et des 25 degrés en plein mois de mai. Bon, quand même, on consomme davantage local et on part en vacances plutôt en France. Mais France Inter fait de la publicité pour des compagnies aériennes. Non, mais cherchez l'erreur. En tout cas, merci d'avoir diffusé le message d'Olivier, troublé par ses choix d'annonceurs. De mon côté, j'ai écrit à la médiatrice de Radio France pour dénoncer ces campagnes que je trouve indignes des valeurs portées par la première radio de service public que j'aime tant. J'invite tous les auditeurs agacés, gênés, troublés par ces pubs, à écrire à la médiatrice également pour suggérer une charte éthique de la publicité, je trouve. L'idée d'Olivier est excellente. En tout cas, merci à la Terre au Carré pour vos formidables émissions. Au les cœurs, merci, au revoir.
Bonjour, je suis Claire de Lyon, de l'association Zéro Déchet Lyon, et avec Sarah de l'association Mouvement de Palier, on vous invite tous à la grande fête de lancement de la première expérimentation de quartier Zéro Déchet dans le quartier de Valmy à Lyon 9e. C'est mercredi prochain, donc le 18 mai, entre 14h et 18h, au Parc Roquette, à côté de la place Valmy. Venez très nombreux. Nous avons trois mots d'ordre, c'est essayer, s'amuser, s'entraider, autour de la réduction des déchets. À très bientôt, merci.
Bonjour à Mathieu Vidard et à son équipe. J'avais pas l'intention, moi c'est Philippe Docton, et j'avais pas l'intention de réagir parce qu'à la suite de l'émission d'aujourd'hui, et surtout aux commentaires de certains, très agressifs, j'ai trouvé par rapport à Aurélien Baron. Aujourd'hui, je pouvais pas, enfin, le jour d'émission, je pouvais pas l'écouter, donc je me suis permis de la faire en podcast de nuit. Et c'était un régal, parce que ce personnage, cet homme, m'ouvre l'esprit, à moi et à d'autres. Et le manque de respect de certains, de pouvoir insulter quelqu'un qui est quand même un scientifique, un humaniste, un gars ouvert d'esprit, je trouve ça sidérant de bêtises, juste de pas pouvoir écouter. Je suppose que ce personnage-là, ce triste cire, il serait content de venir dans mon village ce week-end qui organise une course de côte alors qu'on est peinard. Il va y avoir 160 concurrents qui vont courir la campagne là juste au-dessus de chez nous. Donc on va pas pouvoir rester là le week-end parce qu'il va y avoir un bruit infernal. Alors j'invite ce monsieur, puisqu'il aime le monde moderne dans lequel il vit, à venir dans ce beau village pour voir ce que peut faire le génie de l'être humain aussi. Merci à vous et bon courage.
Bonjour Dominique. Pour tous ceux qui veulent défendre les arbres centenaires au pied de la Tour Eiffel menacés de disparition, le groupe national de surveillance des arbres organise dimanche 15 à 15h une chaîne humaine sur place. Venez nombreux, merci.
Et merci beaucoup pour vos appels. L'idée d'une charte éthique autour de la publicité à France Inter semble réellement vous intéresser, si on en juge par les messages qui se succèdent à ce sujet. Pour justement nous appeler sur le répondeur et vous entendre, 24h sur 24, 01 56 40 45 45. C'est une enquête journalistique et une expérience immersive personnelle qui avait pour ambition de se reconnecter à la nature et de repenser le rapport au vivant 18 mois à la rencontre de spécialistes, d'acteurs de la transition et de la protection de la faune sauvage, mais aussi des chasseurs, des éducateurs nature pour expérimenter de nombreuses pratiques et des notions faisant appel par exemple au sens. Cette aventure inédite fait l'objet d'un livre, L'Enquête Sauvage, qui paraît aux éditions de La Salamandre et on en parle avec son autrice Anne-Sophie Novel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc journaliste, auteur, réalisatrice. Vous collaborez régulièrement avec Le Monde ou les revues Dardar ou Kaizen. Vous allez nous raconter comment justement vous avez procédé pour vous reconnecter à la nature. Et puis à vos côtés se trouve Vincent Bretagnol. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au Centre d'études biologiques de Chizé. C'est dans les Deux-Sèvres. Vous avez publié au CNRS Éditions un autre ouvrage, Réconcilier nature et agriculture, avec Vincent Tardieu. On se retrouve donc dans un instant. Et puis, amis auditrices, auditeurs, eh bien, dites-nous ce que la connexion à la nature évoque pour vous et si vous expérimentez des modes de vie ou des expériences chez vous pour être plus proche du vivant. La page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter vous attendent dès maintenant. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert à 14h30.
Avec des étudiants d'Agro Paris Tech, école bien connue d'ingénieurs agronomes qui appellent à déserter ces formations et les jobs qui vont avec lors de leur remise de diplôme.
Et voilà pour le sommaire de l'émission. Valérie Ayestaraï est aux commandes. Lucie Sarfati a préparé le dossier. Clément Berman est à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au Carré. Sur France Inter.
Le confinement du printemps dernier a plus que jamais donné aux Français des envies de nature. 67% déclarent en avoir ressenti le manque. C'est particulièrement vrai chez les 18-24 ans, dont les trois quarts déclarent vouloir accorder plus de place dans leur vie à la nature. C'est vrai aussi à 63% pour les plus de 65 ans.
Alors ça, c'était en septembre 2020, donc à l'automne, au moment, juste après le premier confinement, un sujet de France 3 Nouvelle-Aquitaine, et donc cette expérience journalistique dont on parle cet après-midi pour renouer avec le vivant, objet de votre enquête sauvage, Anne-Sophie Novelle. On en parle également avec vous, Vincent Bretagnol. Quel était le point de départ, vraiment? C'était le confinement qui a un peu donné naissance à cette expérience, ou pas?
Au moment du confinement, j'avais prévu de me poser. Donc c'était une drôle de synchronicité, parce que je sortais d'une grosse enquête sur les médias et notre rapport à l'information. Et j'avais envie de me reconnecter à autre chose, à passer une autre enquête. Et le confinement arrive, et à ce même moment, les éditions de la Salamandre et le mouvement des Colibris me disent: on a pensé à toi pour mener une enquête. On va lancer une nouvelle collection de livres qui s'appelle Aventure pour le changement, et on aimerait que tu réfléchisses à cette notion de nature. Qu'est-ce que ça veut dire que grandir avec la nature, cette connexion au vivant? Vaste question, je leur ai dit, mais j'aurais pas assez d'une vie pour répondre à cette question. Mais ils m'ont dit, justement, tu es économiste de formation, tu sors de cette grande enquête sur les médias, et t'as jamais forcément creusé ça, on va dire expérimenté. Et donc j'ai accepté avec plaisir, surtout que le confinement me donnait l'opportunité de me mettre au vert comme beaucoup de monde. Mais je me suis rendu compte que malgré ma spécialité journalistique, les questions d'environnement et de climat, j'avais une connaissance très intellectuelle de papier, des grands enjeux, des chiffres, mais que j'étais pas forcément quelqu'un de sensible à la
et du
nature.
Terrain.
Voilà.
C'est ce qu'on découvre dans votre livre, d'ailleurs.
Donc, ce que je raconte, c'est un récit
des choses,
qui n'est pas du tout factice. C'est vraiment la manière dont j'ai cheminé pendant un an et demi, du coup, parce que le confinement m'a donné du rab.
Alors, il y a ces termes, le rapport au vivant, la reconnexion à la nature, le lien au sauvage, réensauvager nos modes de vie. On entend ces expressions ad nauseam, d'ailleurs, quand même, aujourd'hui.
Oui, beaucoup.
Est-ce qu'il ne faut pas craindre, justement, une indigestion sémantique là, autour de ces mots? Ça pourrait presque, d'ailleurs, desservir, au fond, cette démarche de vouloir remettre l'humain au centre de la nature.
Il y a une vraie réflexion à avoir sur la sémantique. Le livre, il a fallu que je l'épure, mais à un moment, j'avais plusieurs pages qui traitaient justement de ce rapport aux mots. Je sais qu'Aurélien Barraud, on en a parlé aussi en début de semaine à votre antenne, à votre micro. Pour moi, c'était important. Et c'est vrai que là, ces deux dernières années, le vivant, on l'a entendu à toutes les sauces. Et justement, je me suis dit, mais j'arrête pas d'entendre ces appels. J'ai lu Morisot, j'ai lu Vinciane Després. Je me suis énormément documentée. Mais moi, mère de famille, avec mon quotidien, mon travail, comment je fais pour écouter leurs appels? Et en fait, tous les citoyens et les citoyennes que nous sommes, on entend ça au quotidien, mais on ne sait pas comment s'y prendre réellement, comment faire rentrer cette préoccupation dans notre quotidien, et comment est-ce que ça peut forger en nous l'envie de défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc c'était vraiment ce questionnement-là qui m'a guidée.
Vincent Bretagnol, pour rebondir quand même sur l'aspect sémantique, ces mots qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup circuler, qu'est-ce qu'ils racontent de notre société au fond aujourd'hui pour vous ?
Ils traduisent le fait que la société, nos modes de consommation, l'économie se sont totalement déconnectés de la nature. En prenant l'exemple qui m'est un petit peu cher, qui est celui de l'agriculture, l'agrochimie, c'est exactement le contraire de l'agriculture qui travaille avec la nature, puisque finalement on remplace tous les processus naturels par de la chimie de synthèse, que ce soit pour les fertilisants ou pour les pesticides. Donc on s'est effectivement totalement déconnecté, et c'est évidemment, on est parti dans une direction qui n'est pas du tout durable. Alors, effectivement, je suis assez d'accord que, on entend beaucoup parler de ces choses, c'est beaucoup de la sémantique, beaucoup des paroles, beaucoup des livres, des articles scientifiques, il y en a aussi beaucoup sur ce sujet. Je vous avouerai que nous, sur notre zone atelier, ce qui fait un petit peu le propre de notre projet de recherche, c'est d'être dans l'action. Et donc de reconnecter, entre autres, l'agriculture, mais de manière plus générale, la société à la nature, mais par l'action, pas seulement le disant.
Vous dites, Vincent Bretagnol, on s'est déconnecté. Anne-Sophie Novel, est-ce qu'il y a des études qui existent? Parce qu'on peut faire vraiment une généralité. Il y a quand même plein de gens qui, heureusement d'ailleurs, en France et dans le monde, sont connectés, ne se sont jamais déconnectés du vivant qui les entoure.
Évidemment. Et donc, ce sont ces personnes-là que j'ai été rencontrée. J'ai été rencontrée aussi bien des naturalistes que des scientifiques comme Vincent qui travaillent sur le terrain au quotidien.
Mais est-ce qu'on a une idée de la proportion gens déconnectés là?
En fait, il y a des études que je cite à la fin du livre dans le chapitre transmission qui vraiment s'intéressent à la manière dont justement on peut cultiver ce lien au vivant, qui ont été faits par des chercheurs en sciences sociales qui montrent à quel point, en effet, on passe de moins en moins de temps dehors, surtout les enfants aujourd'hui sont plutôt entre quatre murs derrière les écrans, et les parents enfin sont un peu responsables de ça parce qu'on laisse de moins en moins les enfants aller dehors libres. Et donc il y a des études, si je me trompe pas, les chiffres montrent que mes grands-parents pouvaient parcourir 10 km librement sans qu'on les surveille. Mes parents, c'était peut-être 1 km et mes propres enfants, ça va être une centaine de mètres. La société s'est urbanisée, il y a beaucoup plus de trafic automobile, il y a beaucoup plus de craintes également, mais on est aussi dans une société plus hygiéniste où mettre les mains dans la terre ou grimper aux arbres est considéré comme dangereux. Et donc il y a tout un travail, un chantier à mener pour essayer de déconstruire ce rapport au vivant.
Mais ça, Vincent Bretagnol, on voit les choses par le prisme de l'occidental riche, au fond aussi. Hein. C'est peut-être tout ça, parce que des peuples qui vivent dans la forêt, dans la nature réellement, il y en a énormément hein, sur la Terre, il y en a des centaines de millions. Hein.
Oui, absolument, et je reprends encore une fois, vous m'en excusez, à l'exemple de l'agriculture, on pense toujours au modèle agricole productiviste, les moissonneuses batteuses, les tracteurs, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 93 ou 95% des agriculteurs dans le monde sont dans l'agriculture de subsistance. Donc, ils n'utilisent absolument pas de pesticides, pas d'azote, ils sont bio, en fait, sans le savoir, et ça représente l'immense majorité des agriculteurs. Donc, effectivement, on a un prisme qui change un petit peu notre regard, mais faut quand même accepter le fait que c'est quand même le modèle dominant d'un point de vue des flux économiques, des flux humains aussi, et donc il y a un vrai problème quand même de ce côté-là.
Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une forme, Anne-Sophie Novel, d'un peu de naïveté à chercher à savoir, oh là là, ça c'est le chant du rossignol, enfin je veux dire, il y a quelque chose presque de presque risible quelque part.
Ouais, c'est ce que je mets en préambule de l'ouvrage. Je veux dire, ça pourrait être très facile de caricaturer la journaliste bobo qui
part à l'affût,
écouter, ouais. Voilà.
Et puis qui, parce qu'elle a reconnu encore une fois le chant du rossignol, se dit c'est bon, je suis connecté au vivant. Non.
C'est ça, c'est pas du tout ça en fait. C'est comme ça qu'on le caricature. C'est pour ça que c'est si compliqué de parler de cette question dans les médias, parce que dès qu'on évoque la biodiversité ou la nature, c'est le cliché qui arrive. Alors qu'en fait, se reconnecter, c'est ressentir puissamment la manière dont on s'est coupé de l'essentiel. Voilà, le fait, comme le disait Vincent, qu'on parle de ressources en permanence, qu'on fasse de l'agriculture hors sol, qu'on ne comprenne pas de quoi il s'agit, qu'on ne sache pas de quoi on parle lorsqu'on parle d'une zone humide et de toute la richesse qu'il y a de biodiversité dans ces écosystèmes, et que du coup qu'on urbanise sans faire attention, qu'on coupe tout ce qui nous entoure. En fait, derrière, il y a quelque chose de puissamment politique que l'on a oublié. Et là-dessus, c'est là qu'il faut venir questionner notre façon d'habiter le monde et notre façon de vivre. Et c'est là que ça va beaucoup plus loin que juste... Mais cette attention-là, elle est quand même nécessaire pour s'en rendre compte. Et comme on n'apprend plus à aimer, on ne peut pas défendre ce qu'on n'a pas appris à aimer.
Est-ce que le piège dans cette enquête journalistique, c'était pas de tomber aussi dans les techniques de développement personnel ou spirituel qui fleurissent aussi hein, ouais, autour de la nature aujourd'hui?
Mais c'est justement ce que je n'ai pas voulu faire. Quand on parle de sensible, ce n'est pas parler de développement personnel. Et donc j'ai été très très vigilante à ce point-là. En plus, voilà, on m'a dit voilà, faut aller explorer les peuples premiers. J'allais pas aller jusqu'en Amazonie pour aller justement voir ces peuples qui vivent en permanence dans la forêt. Donc j'ai été dans la Drôme. Il y a des écoles de la nature pratiquent des savoirs qui cultivent ce lien-là, mais il faut aussi avoir un recul par rapport à ce qu'on va explorer. Il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas, se mettre à vivre comme ils le font, qu'il y a peut-être des choses dont on peut s'inspirer, mais j'ai pas envie de tomber dans ces dérives-là. Faire des câlins aux arbres, pour moi, c'est pas du tout...
Faire des câlins aux arbres.
Non, mais j'ai été, du coup, quand même voir les méthodes japonaises de bain de forêt, qu'est-ce que ça signifie, mais à chaque fois à les rattacher derrière ce que scientifiquement a été prouvé et en quoi ça peut être utile. Mais je voulais surtout pas tomber dans ces dérives parce que c'était pas du tout l'objet de ma quête.
Vincent Bretagnol, faut faire le tri finalement entre toutes les propositions aujourd'hui.
Non, mais je voulais réagir
compliqué,
à l'histoire
hein,
de
la démarche de l'urbain sincère hein, quand
non,
même.
Non, mais qui... Je me suis presque senti visé dans l'histoire de reconnaître les chants d'oiseaux parce que
non, mais c'est
ah non, on parle à un ornithologue.
C'est
ma
spécialité les chants d'oiseaux.
Oui, bien sûr, c'est ma spécialité aussi, mais en quoi c'est plus ridicule que de savoir reconnaître des marques de voitures ou des Pokémon, quoi. Je veux dire, enfin voilà. Je
pense que sauf que vous êtes un ornithologue, donc vous avez un vrai travail de terrain quand même aussi.
Oui, autrefois les gens connaissaient très bien les chants d'oiseaux. Quand vous allez voir en Nouvelle-Guinée, il y a des centaines d'espèces d'oiseaux. Tous les habitants dans les villages connaissent les chants, les mœurs de ces oiseaux. Et en fait, c'est pas juste une question de mode. C'est existentiel en réalité. On dépend de la nature. C'est un problème plus profond qu'une question de patrimoine oublié. Ça va bien au-delà.
C'est ce que je disais, hein, quand je disais ridicule, c'était justement qu'on s'en tienne qu'à ça, en fait.
Absolument,
c'était ce qu'il y avait sous
absolument.
Ma question. Hein.
Bon, mais en tout cas, c'est intéressant. Le débat est lancé pour cette heure de Terre au Carré. On attend évidemment les témoignages et les réactions des auditrices et des auditeurs.
Striking hard, made my way to the earth. I'll stay. I feel like open sky. Could we ever believe it's wrong? I feed out the open minds. I will feel like you're on your own. I guess you're doing fine.
Flyde Rover.
La Terre au carré. Sur France Inter.
L'audionaturaliste travaille sur l'art des sons de la nature, sur l'émotion que l'on peut ressentir en écoutant les sons de la nature. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous vivons maintenant dans l'instant. On ne vit plus dans le présent. Donc on ne vit plus du tout dans la même notion du temps. Et réécouter les sons de la nature, c'est se remettre dans le présent, c'est reprendre un rythme en fait que l'on a perdu parce que notre vie actuelle moderne nous incite à aller trop vite.
Voilà la voix de l'audio-naturaliste Fernand de Roussen. C'était à la Terre au Carré en avril 2021. Anne-Sophie Novel, vous l'avez croisé sur votre route. Il fait partie de tous ces noms nombreux hein, que vous avez rencontrés justement dans votre enquête sauvage. On en parle aujourd'hui avec également le chercheur Vincent Bretel. Comment vous avez établi d'ailleurs votre plan de travail? Vous avez fait une liste avec les lieux, les activités, les personnes à croiser?
J'ai déjà commencé à... J'ai pris le temps de lire énormément pour m'appuyer sur les penseurs, les observations, ce qui existait déjà. Et ensuite, j'ai été défrichée un peu dans tous les sens. Vraiment, les 6 premiers mois, je ne me suis pas donnée de contraintes. J'avais une envie, je m'écoutais, j'étais rencontrée tout un tas d'interlocuteurs. J'ai aussi été faire des choses à côté de chez moi, à une 15aine de kilomètres. On avait les confinements, je me suis dit...
C'est où à côté de chez vous ?
Ah oui, pardon, j'habite dans la région bordelaise, à 25 km à l'est de Bordeaux, dans une région qu'on appelle l'Entre-deux-Mers, donc entre la Dordogne et la Garonne. Et j'ai fait des rencontres de passeurs de nature, de gens passionnés qui travaillent en contact de la nature au quotidien. Et puis, à un moment, je me suis posée en me disant « qu'est-ce que j'ai appris de tout ça ?» Je me sentais riche de quelque chose de nouveau, d'une attention nouvelle. Quand on parlait d'écoute tout à l'heure, c'est surtout ça. Apprendre à écouter les oiseaux, à les reconnaître, c'est tout un cheminement qui est assez difficile. D'ailleurs, je dis pas du tout que je m'en sors vraiment très bien aujourd'hui. Mais ça amène autre chose derrière, ça amène une compréhension, ça amène ce lien en fait que l'on ne ressent plus. Et donc j'ai voulu adopter cette approche par les sens, c'est-à-dire que le livre s'ouvre sur cette notion d'écoute. Et donc Fernand Desroussen explique en fait qu'un jour on n'aura plus que nos yeux pour pleurer parce qu'on n'entendra plus rien et que ce silence s'impose déjà dans nos campagnes, notamment dans la Beauce par exemple, et qu'il y a un vide. Maintenant je ressens en fait physiquement ce vide quand je n'entends rien ou que je ne vois rien, je ressens une profonde tristesse que je ne ressentait pas de la même manière auparavant.
Vincent Bretagnol, Anne-Sophie Novel dit qu'il faut d'abord tendre l'oreille dans un premier temps. Elle fait aussi allusion au printemps silencieux de Rachel Carson dans les années 60. Est-ce que vous, en tant qu'ornithologue, vous observez déjà aussi une baisse du niveau sonore de la nature ?
Bien sûr, ça a été publié à plusieurs reprises maintenant, documenté quantitativement. En 2018, on avait fait un communiqué de presse avec nos collègues du Muséum sur le deuxième printemps silencieux, puisqu'on a perdu aujourd'hui en France plus du tiers des oiseaux dans les plaines agricoles. Et je peux même aujourd'hui vous réactualiser ces chiffres, parce qu'on est maintenant à 42% de déclin des oiseaux dans les campagnes françaises.
Près de la moitié donc.
Près de la moitié.
On s'en approche et c'est effrayant en soi. Voilà.
C'est des chiffres tout à fait considérables et stupéfiants. Ouais. Pire encore du côté des insectes, puisisqu'on sait qu'on a perdu entre 75 et 80% des insectes en Europe. Il y a une étude qui vient d'être publiée en Angleterre avec les fameux insectes sur les pare-brises qui montre qu'en 15 ans, on a perdu, je crois, 60% des insectes.
C'était de la science participative d'ailleurs.
Exactement.
On a demandé aux gens de leur ressenti par rapport aux fameux pare-brises.
Maintenant, on a vraiment une évidence absolument colossale, considérable, de dizaines et de dizaines de publications scientifiques, comme quoi la biodiversité s'effondre, au moins dans les campagnes agricoles.
Gilles nous pose une question un petit peu déroutante sur franceinter.fr. Je verrai ce que vous allez répondre. Pourquoi les humains sont-ils perçus comme étant dissociés de la nature alors qu'ils en sont le produit, au même titre que tous les autres êtres vivants? Pourquoi une ville serait-elle moins naturelle qu'une fourmilière? Un petit peu provocant, Gilles. Qu'est-ce qu'on peut répondre, Vincent Bretagnol?
En fait, il y a de grands philosophes qui se sont emparés de cette question, comme Philippe Descola, Bruno Latour. Enfin, il y a vraiment toute une école qui s'est posé la question à partir de quand, comment et pourquoi et par quel processus a émergé dans la société occidentale, parce que quand on lit ces philosophes, on se rend compte que c'est quelque chose qui est assez propre à nos sociétés occidentales, où l'homme s'est extrait de la nature. Donc il y a des théories qui formule ça par rapport à la religion, au christianisme, d'autres qui formulent ça par rapport au capitalisme. Faut voir qu'en fait, l'homme des sociétés occidentales se conduit comme un utilisateur de la nature. En fait, on la domestique dans le cas de l'agriculture, on la transforme, on l'exploite, on l'utilise finalement comme une poubelle. Donc en fait, c'est pas tellement étonnant que dans ce type d'utilisation des écosystèmes, l'homme se soit dissocié de la nature. Le problème, c'est que c'est pas durable du tout. Ouais. Parce qu'effectivement, on fait partie des écosystèmes et on dépend de la nature. Et en l'utilisant comme dépotoir, ça peut pas durer.
Alors justement, je rebondis parce que votre travail aussi au sein de Chizé, c'est de montrer les services que la nature peut rendre. Et vous travaillez ça en concertation avec à la fois les citoyens, mais également des scientifiques, des chasseurs aussi. Ouais, tout le monde est concerné. Mais est-ce que c'est pas une façon aussi d'instrumentaliser la nature que d'en montrer finalement l'aspect utilitaire?
Alors, si ça s'arrêtait qu'à ça, oui. C'est d'ailleurs une des grandes critiques qui est formulée autour du concept des services écosystémiques,
oui,
qui a été formulé par des économistes, avec une vision très utilitariste et exclusivement finalement utilitariste de la nature. C'est pas notre cas. On a justement des programmes aussi autour des aspects culturels, sociaux de la nature, de l'éthique aussi. Mais effectivement, il faut faire attention. Ceci dit, je ne renie pas du tout non plus cet aspect-là, parce qu'il est quand même premier. C'est-à-dire que notre nourriture, nos médicaments dépendent de la nature, à des proportions. Dans le cas des médicaments, c'est plus de 50%. Dans le cas de l'alimentation, c'est pratiquement 100%. Donc voilà, il y a ce côté utilitariste existe.
Ouais. Anne-Sophie Novel, est-ce que c'est pas rater une marche finalement que d'avoir ce prisme utilitaire de la nature et de n'en voir qu'une petite partie, celle évidemment qui nous concerne, nous les humains, en premier?
Ben si, évidemment, c'est tout ce que je dénonce aussi, c'est tout ce que j'ai été chercher, c'est-à-dire comment est-ce que je peux voir le vivant qui nous entoure comme de manière plus horizontale, en arrêtant de croire que c'est une ressource dans laquelle on peut taper, qu'un simple décor qu'on va mettre sur un réseau social ou quelque chose, voilà, on en fait partie, et il est important aujourd'hui de ressentir ça pour mieux s'en emparer et pour mieux le défendre ensuite. Il faut lutter aujourd'hui, il faut réfléchir à notre façon de cohabiter également, il faut réfléchir à nos usages du monde, et derrière ces apports scientifique, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, pour moi, qu'on doit arriver à cultiver, rentrer dans le sensible, c'est justement comprendre ça d'une autre manière que par l'intellect.
Mais en dessous de ça, est-ce que finalement la question, c'est juste de, finalement, qu'on soit tous conscients que notre vie, sur Terre, enfin, dépend de tout ce qui nous entoure, finalement?
Ça me paraît tellement évident aujourd'hui que cette déconnexion, elle s'exprime ici. En fait, tout dépend. En effet, enfin voilà, on mange, on habite, on se déplace en utilisant les ressources, voilà, qui nous entourent. Mais aujourd'hui, on va trop loin dans cette forme d'extractivisme, dans ce capitalisme dont parlait Vincent. Et on est en train de franchir toutes les limites planétaires. On en a encore franchi une la semaine dernière. Ça a été montré. Donc c'est là que ça pose problème.
Et puis je crois pas justement qu'on ait conscience de ça, parce que si on
oui,
en avait
problème,
vraiment,
justement.
Oui, absolument, ouais. C'est le problème. Si on en avait vraiment conscience, on n'utiliserait pas la nature comme notre poubelle, que ce soit pour les déchets plastiques. Voilà, il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans qui montre que ce que l'homme a produit en matière d'infrastructure, par exemple le ciment, le béton, l'acier, les plastiques et compagnie, a dépassé en poids total sur la Terre l'ensemble du poids du vivant. C'est absolument prodigieux. Enfin, je trouve ça, voilà. Et si on était vraiment conscient de ce lien intime et intrinsèque qu'on a avec la nature, c'est-à-dire notre habitat, on ne ferait pas ça. Donc c'est la meilleure preuve qu'on n'a pas encore pris conscience de cet état de fait.
Vincent Bretagnol, est-ce que vous n'êtes pas un peu lassé, désemparé, vous qui lancez des alertes depuis tellement longtemps, de ne pas être entendu, de voir que les mesures aujourd'hui ne sont pas suffisantes? On parle de l'éco-anxiété aujourd'hui de la population, des adolescents en particulier. Est-ce qu'elle existe chez les chercheurs aussi?
Je pense qu'elle existe, en tout cas moi je la ressens à de nombreux moments. Ceci dit, justement depuis un certain nombre d'années, j'ai décidé de ne pas me placer dans le cadre des lanceurs d'alerte et des lanceurs d'alarme. Je signe jamais de pétition, je préfère être dans l'action. Parce que je crois
c'est
que c'est
meilleur.
C'est pas incompatible, mais bon, le temps qu'on passe à écrire des pétitions, on ne passe pas à faire de l'action, justement, donc je préfère passer l'essentiel de mon énergie là-dessus, travailler avec les acteurs dans les territoires. Bon, j'ai pris comme cadre d'étude le monde rural. C'est peut-être un petit peu plus facile que la ville. Voilà, et on essaye d'avancer avec les citoyens, les habitants.
Allez, on se retrouve dans un instant. On verra aussi, Anne-Sophie Novel, pourquoi la nature nous fait peur. Parce qu'il y a des choses intéressantes à raconter à ce sujet, et peut-être des témoignages d'ailleurs de la part des auditeurs de l'émission.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, on passe au vert, Madame Cronier.
Avec une vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux depuis sa mise en ligne mardi, déjà vue plus de 400 000 fois. Vidéo du discours de 8 étudiants lors de leur cérémonie de remise de diplôme d'AgroParisTech, grande école d'ingénieurs agronomes. Ils montent sur scène avec une ambiance musicale que vous allez adorer, Mathieu. Ah. J'étais sûre que vous alliez deviner. Ambiance. Ça va très vite changer quand ils prennent la parole à tour de rôle.
Bonjour à tous et à
pour
toutes.
Pour dénoncer le système dont ils sortent. Introduction, on pose le décor.
Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritants d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre.
Voilà, la voix tremble un peu, mais les idées sont explicites. Exemple et cynisme à l'appui.
AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres, ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire.
message clair adressé, disent-ils en se relayant, à ceux qui doutent.
À vous qui sentez un malaise monter sans pouvoir le nommer, qui trouvez souvent que ce monde est fou, qui avez envie de faire quelque chose mais ne savez pas trop quoi, ou qui espériez changer les choses de l'intérieur et n'y croyez déjà plus. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Car il y a vraiment quelque chose qui cloche.
Et pour y remédier, ils lancent un appel à déserter, ce sont leurs mots, dans une conclusion percutante comme la totalité des 7 minutes de discours.
Quelle vie voulons-nous ? Un patron cynique ? Un salaire qui permet de prendre l'avion ? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon ? Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite ? Un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocoop ? Et puis, un burn-out à 40 ans ? Ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repeint en vert. Vous pouvez bifurquer maintenant. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
Voilà, applaudissements dans une salle légèrement déconcertée avant donc qu'Internet prenne le relais. Ces agro-bifurqueurs ont posté la vidéo, je le disais, mardi, largement commentée. Elle a même été retweetée par un certain Jean-Luc Mélenchon. Donc, j'ai demandé à Victor, l'un des diplômés sur scène, si ce petit buzz ne les avait pas finalement un petit peu dépassés.
Bah, c'est politique tout ce qu'on a dit. Après, la récupération par des partis, enfin, aucun d'entre nous n'est militant France Insoumise ou quoi, mais c'est vrai que quelque part, bon, récupération ou pas, le message, il est clair, il est là. Donc voilà, ça nous a dépassé, mais c'est tant mieux.
Content du résultat pour ce discours dont ils ont ensemble pesé chaque mot pendant 2 semaines. L'idée, elle était un tout petit peu plus vieille. Lola a été la première à prendre la parole sur scène.
On avait un peu d'appréhension, ce qui nous a surpris et fait du bien à entendre, c'est tous les étudiants, nos potes de promo, les gens qu'on ne connaissait pas qui sont venus nous voir pour nous remercier, pour nous dire que ça leur donne de l'énergie en fait et que ça résonne en eux, qu'ils sont dans ces jobs-là en ce moment mais qui se posent des questions.
Bon, après il y a aussi des critiques, hein, ceux qui disent que appeler à tourner le dos à ces métiers et à ces écoles, bah, c'est un petit peu facile à dire, surtout une fois qu'on a eu son diplôme, hein, parce que, je le précise, aucun d'entre eux ne l'a refusé.
On est bien conscient qu'on est des personnes privilégiées et que c'est pas aussi facile pour tout le monde de déserter son travail. Mais dans ce discours, on dénonce aussi évidemment ce système-là de grande école et d'élitisme qui crée des injustices que l'on dénonce.
Mais pourquoi, au contraire, ne pas faire en sorte de changer les choses de l'intérieur, justement ?
Alors oui, c'est un commentaire qu'on a beaucoup vu. Personnellement, j'y crois peu à cette histoire de changer les choses vraiment de l'intérieur, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt une fois qu'on est à l'intérieur qu'on se fait changer.
Alors ces jeunes, ils ont tous 24 ans, ils appellent donc à construire sa propre voie en cherchant d'autres chemins.
Clairement, on pense que les écoles d'ingénieurs font largement plus partie du problème que de la solution. C'est pas par de la bureaucratie, de la technocratie et du marketing ou des discussions hors sol dans des ministères ou ailleurs qu'on pense changer les choses et que le pouvoir pour nous, il se fait en se réappropriant des savoirs et des savoir-faire, en apprenant à vivre de nos territoires sans les épuiser, sans épuiser ceux à l'autre bout du monde, pas dans ces jobs qu'on nous propose.
Et je ne sais pas si le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a eu vent de tout ça, hein, lui qui est sorti d'AgroParisTech il y a pas très longtemps. Le directeur de l'école, en tout cas, a déclaré au journal Le Monde que l'établissement remplissait sa mission d'aider, je cite, les étudiants à choisir leur parcours et le sens qu'ils souhaitent donner à leurs études. Les 8 en question sont aujourd'hui en train de se lancer, par exemple, en apiculture dans le Dauphiné, en maraîchage dans le Tarn et engagés dans certains mouvements comme les soulèvements de la terre. Des parcours anti-système assumés, voici le conseil que Victor veut donner.
Vivre une expérience de lutte, de ZAD, d'autogestion quelque part, c'est vraiment là on prend conscience qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il y a d'autres manières de penser. Et surtout, c'est aussi là qu'on voit que hors du système, il y a des choses. Et qu'on les voit pas quand on est le nez dans le guidon de nos études, avec les parents qui veulent qu'on ait le meilleur diplôme possible derrière.
Et pour ceux que ça tente, des chantiers écoles, sachez-le, sont prévus tout l'été partout en France. Ça s'appelle la reprise des savoirs. Première date et lieu déjà en ligne sur le site reprisedessavoirs.org.
Et vous pouvez entendre la parole de ces jeunes d'AgroParisTech sur la page de la Terre au Carré.
Vincent Bretagnol, vous avez fait quoi, vous, tiens, comme formation ?
Eh ben, c'est un peu gaguesque, mais j'ai fait une école d'agronomie, justement. Pas celle-là, celle de Montpellier.
Vous entendez leur discours de dire que...
Oui, enfin, je l'entends, évidemment que je l'entends, ça fait 30 ans que j'essaye de proposer un modèle alternatif à celui qui est enseigné dans les écoles d'agronomie. Et il existe, en fait, ça s'appelle l'agroécologie, c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place et de tester sur notre zone atelier. L'agroécologie est un petit peu enseignée dans les écoles d'agronomie, mais pas du tout à la hauteur de ce que ça devrait être. Donc, je trouve un petit peu...
Mais eux appellent carrément à déserter, hein. un pardon, c'est-à-dire qu'ils se disent en fait faut carrément aller faire les choses de ses mains.
Je pense qu'ils n'ont pas complètement tort quand ils pensent que le métier d'ingénieur est plus le problème que la solution. Donc, mais c'est pas une question d'agronomie, c'est juste qu'ils sont pas dans la bonne agronomie. La bonne agronomie, c'est l'agroécologie. C'est pas l'ingénierie qu'on est en train de nous vendre. D'ailleurs, au niveau du ministère, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, l'agriculture de demain qu'on nous vend actuellement, c'est l'agriculture qui procède des OGM ou des pseudo-OGM, des biocides, enfin voilà, de la génétique avant tout, des drones, des robots dans les champs. Bon, c'est pas l'agriculture de demain.
Anne-Sophie Novel, il y a quand même quelque chose de saisissant, de puissant dans les mots qu'on a entendus de la part de ces jeunes.
Ah oui, je l'ai relayé dès que j'ai vu cette vidéo, mais en fait, moi j'enseigne aussi. Là, mars-avril, j'ai passé de longues heures dans différentes écoles avec des étudiants en école de journalisme, une cinquantaine au total. Et après ces heures d'enseignement, je me suis sentie à un moment complètement vidée parce que je ressens leur anxiété, je ressens leur questionnement sur le monde, je ressens leurs doutes en fait sur le système qu'ils vont aller nourrir. Et comme rarement ça m'était arrivé, j'ai eu moi-même ma propre crise d'éco-anxiété un matin en me levant. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, à me dire « mais est-ce que c'est pas un peu fichu cette histoire ?» Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'actualité est remplie d'alertes de plus en plus alarmistes. Les rapports vont et se succèdent et j'ai l'impression que politiquement on a encore un long chemin à parcourir. Et donc c'est un peu désespérant, même quand on produit de l'information, que voilà, de s'interroger sur est-ce qu'on fait bien notre métier, pourquoi ça passe pas comme message, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin et comment est-ce qu'on rassure cette jeunesse, ou comment est-ce qu'on doit lui parler pour lui expliquer quoi faire. Et donc je comprends cette colère, je comprends cette émotion, mais elle ne me surprend pas, et je pense que c'est normal, et ça va continuer. Il y avait déjà un film là-dessus d'Arthur Gosset qui s'appelait Rupture, qui expliquait en quoi il avait eu son diplôme, et que pareil, avec des camarades,
on en avait parlé dans l'émission, on l'avait même invité.
Voilà, et donc c'est... Voilà, ouais.
Ça va mieux aujourd'hui, vous ?
Moi, ça va mieux parce que je sais comment me ressourcer. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé à ce niveau-là. Parce que on a ces discours très alarmistes qui existent, mais je suis pas défaitiste parce que je sais qu'il y a plein de choses à faire et que justement, lorsqu'on est comme Vincent, moi, je suis aussi dans le rural, à agir en local. Il y a plein de choses à faire et surtout, il n'y a pas besoin d'être convaincu ou militant. En fait, il y a plein de collectifs citoyens partout en France et partout dans le monde qui sont en train de s'emparer de ces sujets et qui vont parce qu'ils voient qu'on est en train de dégrader le monde et de l'uniformiser pour de mauvaises raisons.
Vincent Bretagnal, heureusement, il y a des raisons de se réjouir aussi quand même aujourd'hui.
Bien sûr. Enfin, la
sinon, il n'y a plus qu'à mettre la clé sous la porte.
Oui, quelque part. Mais la principale raison de se réjouir, c'est que les solutions, non seulement elles existent, elles sont là, elles ont déjà été éprouvées. Le problème actuel, c'est qu'elles ne sont pas mises en place de manière massive.
Et politique.
Voilà. Ni politique, ni même collectivement. Je veux dire, la société n'est pas encore prête. Voilà. Donc, c'est ça le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de préparer.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion autour de cette enquête sauvage à la salamandre.
Qu'est-ce que c'est? T'étais folle déjà bien avant tout ça. C'était pas ta faute, mais c'était celle des autres. J'aurais dû t'aider à soigner tes mots. On finira de haut commissariat. Je changerai pas quitter même si j'ai le choix. Juste une seule nuit bercée dans tes bras. C'est tout ce que je demande de toi. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris. Tout ça pour cette nuit. À deux dans le mosh pit, au piano Yeezy. À deux dans le mosh pit, au piano Yeezy. Qui ça? Les gens nous regardent et que j'ai rien à voir. Ils avaient la boca, ils veulent tous être comme toi. C'est bien qu'ils ne peuvent pas, mais ils veulent tous t'avoir. Pas besoin de ça, on est très bien comme ça. Si on en a marre, un jour futur de se voir. Faudra prévoir une signature, un pas. Pas que le soir, on finisse dans les tracas. T'es mon territoire, faut la se battre pour t'avoir. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris, tout ça pour cette nuit. À deux dans le mosh pit, au piano Yeezy. À deux dans le mosh pit, au piano Yeezy. On me l'avait déjà dit que c'était la folie. Je sais pas ce qui m'a pris, tout ça pour cette nuit. À deux dans le mosh pit, au piano Yeezy.
Qu'est-ce que c'est? qui c'est Loose and the Yakuza.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
En fait, est-ce que la nature nous veut du mal ? Est-ce que la nature nous veut du bien, comme pensent les Esquimaux et certains écolos ? Ou est-ce qu'elle s'en fout, ce qui est bien probable ? Pour s'y retrouver là-dedans, il faudra qu'on analyse nos esprits. Et malheureusement, quand on analyse les esprits des urbains occidentaux, à part toutes les exceptions qui confirment la règle, on se rend compte que le catéchisme qui était imprimé dedans, c'est que la nature nous en veut. On a bien l'impression que la doctrine, c'est que la nature s'ingénie à nous emmerder. Et c'est pour ça qu'on a certainement un aménagement du territoire particulièrement lamentable.
Voilà, le chercheur François Terrasson, en 2013, chercheur aujourd'hui disparu, et vous le citez dans votre enquête sauvage, Anne-Sophie Novel. Il a ces mots pour dire aussi à quel point la nature peut, cette force extrême, nous faire peur. Hein.
Ah oui,
nous emmerder, dit-il.
Ah oui, nous emmerder, mais surtout, il a un discours d'une actualité. Enfin voilà, ça reste totalement intemporel. Quand on replonge dans ses ouvrages, qu'on les relit, il fait appel au mythe, il appelle nos représentations, il interroge en fait, cette vision que l'on a de cette nature profonde, forcément pleine d'épines, griffues. Et donc, moi-même, je me suis interrogée sur mes propres peurs. On en a tous, des petites bêtes, des grosses bêtes.
Quelles sont les vôtres ? Alors, vous les citez dans le livre.
Je raconte que j'étais incapable d'aller me balader toute seule en forêt. C'était bête, alors qu'on y va tout le temps, en famille, etc. Ouais. Mais c'était quelque chose qui me... Et donc, un matin, à force de faire des balades, de mener mon enquête, je me dis, allez, vas-y, j'avais une impulsion. Et je me suis senti riche de tout ce que j'avais appris et à me rendre compte que ma connaissance des végétaux, de la faune, de la flore, commençait à m'aider aussi à comprendre l'autre et à rentrer dans cette altérité. Et c'est bien justement ce chemin-là qu'il est important de faire pour se réapproprier, en fait, de manière horizontale, comme je le disais, ce rapport au vivant. Mais il faut faire cet effort. Il ne s'agit pas juste de sortir une application ou un guide pour dire je connais le nom de cette plante, pour se dire ça y est, je me suis reconnectée, ou voilà, c'est important de le faire, mais il faut comprendre le fonctionnement, le mode de vie, le fonctionnement de l'écosystème. Ça, c'était important pour moi d'arriver à le faire. Mais...
Donc, vous êtes allé vous balader la nuit dans la forêt.
La nuit, je l'ai fait. J'ai bivouaqué dehors.
C'est pas vous qui avez peur des oiseaux, un peu, Camille ? Parce que
j'ai pas peur des oiseaux. J'en ai bagué la semaine dernière.
Ah oui, c'est ça. Oui, je me souviens de l'émission sur les vautours.
Non, moi, j'ai peur des punaises surtout, mais Vincent
parce que
Bretagnol.
Avec Vincent Bretagnol, quand même.
Non,
vous avez des peurs, vous, ou pas ?
Non, j'ai pas des peurs, mais j'ai quand même souvenir de. Bon, j'ai été visiter plusieurs parcs en Afrique il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, à pied. À l'époque, c'était pas interdit. Aujourd'hui, ça l'est. Et de m'être retrouvé à un peu moins de 100 mètres d'un lion en étant à pied ou à 20 ou 30 mètres des éléphants, ça fait frissonner. Je dirais pas que ça fait peur, mais ça fait frissonner. Quoi.
Un petit frisson, bah dites donc, j'aurais eu plus qu'un frisson à votre place. Hein. Camille, les auditeurs nous écrivent, nombreux.
Oui, Sophie nous écrit entre Aix et Marseille, j'ai la chance d'avoir abondance de mésanges, de chardonnerets et autres, réveillés chaque matin par le chant des oiseaux. Ils ont eu tout l'hiver graines, boules de graisse bio et eau à disposition. Tout n'est donc pas perdu. Alors, question, Vincent Bretagnol, ça veut dire effectivement qu'il en reste et heureusement. Mmh. Juste, j'y pense, est-ce que c'est bien de nourrir les oiseaux ? Il y a un petit débat là-dessus, je crois.
Oui, il y a un débat parce que, en fait, trop nourrir les oiseaux en hiver, c'est pas du tout bon. Faut s'arrêter à temps. Les oiseaux, notamment dans nos latitudes, changent de régime alimentaire et de métabolisme entre l'hiver et l'été. Par exemple, dans les plaines agricoles, les oiseaux sont granivores en hiver et sont insectivores en été. Ils nourrissent leurs poussins, ils se nourrissent pour fabriquer les œufs avec des insectes parce que c'est beaucoup plus énergétique. Par contre, comme il n'y a plus d'insectes en hiver, ils basculent sur un autre régime alimentaire, ce qui entraîne des changements métaboliques. Et donc, trop nourrir les oiseaux, donner des graisses au printemps, c'est pas forcément bon. Donc, faut faire attention à ça.
Et tant qu'on est dans les questions pratiques, je vous dis ça parce que j'ai vu pas plus tard qu'hier matin un de mes voisins, donc à Paris, enfin devant un immeuble, un professionnel en train de tondre, enfin je sais pas comment on dit, de couper la haie avec une tronçonneuse, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est en ce moment, normalement, faut pas toucher aux haies. Non, parce que les oiseaux nichent beaucoup
dans les haies, et notamment les.
Mais comment des professionnels forêts. Un peu paysagistes peuvent faire ça à Paris en l'occurrence ?
Par méconnaissance, c'est souvent le problème numéro un, c'est la méconnaissance. Donc voilà, par déconnexion de la nature, on oublie que les oiseaux nichent dans les arbres, ont des nids au bout des branches, et quand moi non plus, je connais pas le nom de l'appareil parce que je taille jamais les haies. Quand on taille les haies, on élimine non seulement les oiseaux, mais aussi les insectes.
Donc pas touche aux haies là jusqu'à juillet.
Non,
en gros.
Au printemps, non. De manière générale, faut arrêter de tondre les pelouses sans arrêt parce qu'on élimine les fleurs, donc les insectes. Voilà, c'est tout ça qu'il faut réapprendre. C'est laisser une part de nature dans son environnement.
Anne-Sophie Novel, vous avez aussi rencontré des familles qui ont décidé de franchir le pas et de changer de vie. Alors ça peut prendre des formes assez différentes comme on peut le voir, des vies en collectif, certaines qui s'affranchissent vraiment de la société de consommation pour adopter croissance, décroissance et sobriété, minimiser l'impact sur l'environnement. Quel est le profil de ces personnes? Est-ce qu'il y a quelque chose de très commun ou au contraire il y a une diversité de...
Il y a une grande diversité, mais voilà, c'est l'an dernier, j'ai fait tout un tour de France des écolieux avec d'autres journalistes et je me suis retrouvée dans un écolieu à côté de Montpellier où en effet j'ai rencontré d'anciens médecins, d'anciens ingénieurs en aéronautique qui ont tout lâché, qui ont vendu leur maison, des architectes aussi qui se sont séparés de tous leurs biens pour s'installer avec leurs enfants
ils avaient les moyens du coup.
Bah oui, ils ont un peu d'économie devant eux, mais je trouvais que c'était assez, voilà, c'était un parcours de vie où justement on désencombre de tout. Je sais pas si c'est une solution, mais leur rapport à la décroissance, je l'avais jamais senti pareil de cette manière-là. Enfin, on en parle beaucoup, mais là j'étais vraiment avec des personnes qui le vivent au quotidien.
Vous avez été convaincue par ces personnes ou pas, sincèrement?
Oh, j'ai été assez bousculée. Alors notre métier de journaliste n'est pas fait pour rester tranquille, donc ça m'a fait me poser plein de questions et c'est ce que je dis dans le livre d'ailleurs. À un moment, est-ce qu'ils sont pas sur le juste chemin? Et puis j'ai été échanger avec pas mal de monde à ce sujet. J'ai échangé notamment avec des personnes qui accompagnent ces collectifs en Belgique. Ils disaient, mais c'est pas non plus la solution. On va pas tous aller comme ça, s'installer dans la nature. Donc voilà, c'est complexe.
Est-ce qu'il faut se mettre à l'écart pour retrouver l'essentiel? C'est un peu la question.
Exactement. Certains vont le faire, mais on va pas tous pouvoir le faire. Et puis on va pas laisser les villes inhabitées. Il y a beaucoup de choses à faire aussi en ville. Donc, et heureusement, les municipalités commencent à s'en emparer. Mais on parlait des haies tout à l'heure. Moi, ma commune, j'interpelle mon maire en ce moment. Ils ont coupé une haie il y a une semaine. Je leur ai dit, mais là, on est en pleine période de nidification. Et j'apprends qu'on a coupé cette haie de 10 mètres de long sur 3 mètres de haut pour mettre un abri à vélo. Et donc, parfois, les enjeux climatiques dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont une victoire parce que les gens commencent à comprendre qu'il y a quelque chose à faire, prennent le pas sur ces considérations du vivant. Donc moi, ça me fait disjoncter, faut le dire honnêtement, parce que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Pourquoi est-ce que c'est pas mieux compris? Et l'urbanisation galopante à laquelle j'assiste aussi dans les environs à côté de chez moi, je me dis, c'est plus possible de concevoir ça. On a des plans qui disent, voilà, il faut atteindre une artificialisation nette zéro d'ici 2050, mais je vois pas comment on va rentrer dans les clous. Donc voilà, il faut que tout le monde se mobilise aussi à ce niveau.
William nous écrit, ma vie en yourte, en lisière d'un bois et mon travail d'animateur nature me connecte beaucoup. Ouais, tu m'étonnes, William. Vincent Bretagnol, vous travaillez pas mal avec les agriculteurs et vous parliez tout à l'heure de la nécessaire préparation. Est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, le monde agricole est prêt à faire une vraie transition et un vrai changement de système?
Alors, je vais parler du monde agricole que je connais un petit peu. Là, sur notre zone d'atelier, il y a 450 exploitations agricoles à peu près. Je pense que le monde agricole s'interroge énormément aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il soit prêt à la transition agroécologique, en tout cas massivement, mais il s'interroge du point de vue du climat, des sécheresses, de la problématique de l'eau. Ils savent plus trop quoi cultiver parce que d'une année à l'autre, les épisodes de pluie qui sont indispensables au lever des semences sont pas au même moment. Donc voilà, ils ratent des semis entiers massivement. Ils sont obligés de ressemer. Enfin bref, ils sont dans l'interrogation totale, et ils le sont d'autant plus que économiquement ça devient un petit peu n'importe quoi. Le cours des céréales, du colza, du tournesol se sont envolés de manière spectaculaire. L'azote aussi, l'azote de synthèse, son prix a été multiplié par 4 en l'espace de 2 ans. Enfin, c'est absolument considérable. Donc je pense qu'ils sont en perte de repère à peu près complète. Et raison de plus pour s'embarquer dans la transition agroécologique, ce qui peut paraître paradoxal parce que la nature est plus imprévisible que l'agrochimie, mais elle est plus résiliente. La solution de facilité, c'est l'agrochimie parce qu'on n'est pas sûr d'avoir de l'eau, on n'est pas sûr si on aura des insectes ou pas, mais c'est pas du tout résilient, alors que l'agroécologie l'est beaucoup plus.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de notre discussion, juste après ce petit souvenir des années 90, avec Gilles Kaplan et Tout ce qui nous sépare sur France Inter.
On partage plus de secrets, on ne partage plus nos joints. On se n'est plus trop grand chose quand on se voit. On s'y brûle plus les doigts et devant tout ce qui nous sépare, sans plus rien qui répare au nom de tout ce qui nous sépare, sans
et Gilles Kaplan à l'instant sur France Inter.
France Inter, la Terre au carré.
Le béton va bientôt couler et c'est irréversible. Là, l'idée, c'est vraiment d'alerter, quoi. Et puis, c'est d'alerter et d'envoyer un message qui est clair, c'est qu'on les lâchera pas. Ils trouveront toujours des gens sur leur route pour arrêter ce désastre.
Là, l'idée, c'est d'alerter l'opinion, de montrer qu'on est prêt à s'engager physiquement et de faire en sorte que, oui, économiquement, ça ne tourne pas, en fait.
On n'en peut plus de cette urbanisation délirante. Et puis, c'est encore à chaque fois prendre bouffer de la biodiversité.
Alors que tout nous dit qu'on va avoir une catastrophe climatique et qu'il faut arrêter de faire ça, eux, ils continuent pour une piscine olympique qui n'a aucun sens.
Il faut se radicaliser. Les gens d'ici, ils ont besoin de respirer.
Les défenseurs des jardins d'Aubervilliers. Ça, c'était en février 2020, une vidéo du Parisien. Depuis, les travaux ont été stoppés par décision de justice. Et vous en parlez justement de ces lutins, oui. Anne-Sophie Novelle, parce qu'elles prennent de l'ampleur aussi. Hein.
Elles prennent de l'ampleur et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément des personnes qui étaient convaincues par les questions écologiques, mais qui voient qu'à côté de chez eux ou aux alentours, on est en train de tout détruire. Et d'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat, les 150 citoyens qui s'étaient réunis avaient mis parmi ces mesures l'envie d'arrêter de mettre des entrepôts Amazon ou d'urbaniser comme ça à outrance. Donc c'est très important d'insister là-dessus. Pour moi, ces grands projets urbanistiques et les promoteurs sont vraiment loin de comprendre tous les enjeux auxquels on fait face, en fait.
Message de Joël, vos émissions sont super, mais à force de dénoncer notre modèle sociétal, elles véhiculent peut-être une angoisse chez vos auditeurs qui sont pourtant des personnes soucieuses de l'environnement à cause du fait qu'il n'y a pas de solution à porter. On se retrouve de plus en plus démunis. Est-ce qu'on peut essayer de rassurer Joël, Vincent Bretagnol?
Oui, parce que les solutions, comme je disais tout à l'heure, elles sont là, en fait. Alors, il y a des solutions à titre individuel. C'est très facile de manger différemment, de manger local. C'est, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est pas plus cher. En tout cas, en milieu rural, c'est même plutôt moins cher. On nous dit tout le temps que le bio, c'est pas accessible à tout le monde. C'est sans doute vrai à Paris, mais c'est une question d'offre et de demande. En milieu rural, la nourriture locale est moins chère que la nourriture en supermarché. C'est facile d'entretenir son jardin de manière vertueuse quand on en a un, ou d'avoir sur son balcon, si on en a un, ou sur sa fenêtre des plantes. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ceci dit, c'est limité. On sait très bien que par rapport aux enjeux climatiques, les efforts individuels, ça résoudra 20% du problème.
En tout cas, on invite cet auditeur à réécouter nos émissions de la Drôme la semaine dernière, parce qu'on a vraiment vu, de nos yeux vus, des solutions qui existent dans le domaine de l'agroécologie, et aussi la résilience de la nature, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer sur des échelles de temps finalement assez courtes, et ça, ça nous a beaucoup donné d'espoir aussi. Hein.
Absolument.
On termine avec les oiseaux, Camille.
Oui, Nina, alors Dominique nous dit qu'elle vit en Lozère, qu'il vit en Lozère et qu'il est toujours heureux d'entendre les chants du rouge-queue, des martinets ou du petit duc, et Nina nous dit: j'entends des oiseaux chez moi, mais comment savoir à qui appartiennent tous ces gazouillis? Alors, on va en faire entendre un, peut-être, Vincent Bretagnol.
Ça, c'est un rossignol, apparemment. Voilà. Rossignol, alors, c'est un oiseau qui a été très étudié parce qu'il a un chant absolument prodigieux, qui a inspiré d'ailleurs un certain nombre de musiciens, et qui, en plus, est très riche et très diversifié.
On peut prendre des cours de chant d'oiseaux pour les reconnaître?
Alors, il y a des applications qui existent pour reconnaître les chants d'oiseaux.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne-Sophie Novelle. Votre enquête sauvage vient de paraître à la Salamandre avec le colibri. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.